En place au journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. 6 personnes ont déjà été arrêtées après l'attentat qui aurait visé Nicolas Maduro. Un événement sur lequel il va peut-être être dur de faire la lumière. Les membres du gouvernement ne sont pas tous d'accord sur la version des faits. L'opposition, elle, met en doute la thèse de l'attentat. Jean-Henri Séan, chargé de former un gouvernement en Haïti. C'est lui que Jovenel Moïse a choisi pour remplacer celui de Jacques-Guy Lafontaine qui a démissionné mi-juillet. On y revient dans la revue de presse. Au Brésil, ce n'est pas le Premier ministre qui a été nommé, mais le colistier de Lula en vue de la présidentielle du mois d'octobre. On évoquera également la brouille diplomatique entre le Canada et l'Arabie Saoudite. Et puis Eric Sanson, notre correspondant en Équateur, nous emmènera dans un festival de théâtre un peu particulier. Le président Nicolas Maduro affirme donc avoir échappé à un attentat ce week-end au Venezuela. C'est à la une de notre revue de presse. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Stéphanie, le président vénézuélien probé de répondre avec fermeté.
Ouais, tout à fait. 6 personnes ont été d'ores et déjà arrêtées, des véhicules saisis, des perquisitions menées, a annoncé hier le ministre vénézuélien de l'Intérieur et de la Justice, Néstor Reverol, cité par le quotidien Ultimas Noticias. L'un des individus interpellés, a précisé le ministre, était visé par un mandat d'arrêt pour une attaque menée en août dernier contre une base militaire dans la ville de Valencia, à l'ouest de Caracas. Toujours selon les déclarations de Néstor Reverol, l'attentat contre Nicolas Maduro a été commis par 2 drones chargés chacun d'un kilo de C4, un puissant explosif militaire. L'un des drones a survolé la tribune présidentielle lors de cette parade militaire, mais sa trajectoire a été perturbée par un système de brouillage. Le drone a alors explosé hors du périmètre prévu, a expliqué le ministre. Le contrôle d'un second drone a été perdu et il a explosé contre un bâtiment situé non loin de la parade militaire.
Mais force est de constater que les membres du gouvernement vénézuélien n'ont pas tous la même version des faits.
Absolument, Pauline. Le journal d'opposition El Nacional souligne les contradictions dans la communication officielle. Ainsi, le ministre de la communication, Jorge Rodriguez, parle, lui, non pas de 2, mais de 3 drones et de 3 explosions, l'une face à la tribune présidentielle, l'autre du côté droit de celle-ci, et une 3e explosion contre l'immeuble d'habitation. Tarek Saab, le procureur général proche du pouvoir, a encore une autre version. J'ai pu observer comment le drone qui filmait la cérémonie a explosé, a-t-il déclaré samedi soir sur la chaîne CNN en espagnol.
On regarde à présent du côté de l'opposition. Elle remet en cause la thèse de l'attentat.
Absolument. Dans un communiqué repris par Tal Cual, la formation Frente Amplio, qui réunit, comme vous le savez, plusieurs partis d'opposition, réclame au gouvernement la présentation de preuves matérielles. Cette frange de l'opposition vénézuélienne rejette toute option violente pour un changement de régime. Notre peuple mérite une solution démocratique et constitutionnelle, écrivent les auteurs, qui disent craindre une nouvelle vague de répression.
Et aux États-Unis, pointé du doigt par Nicolas Maduro pour abriter des financiers de l'attentat, la presse se montre également dubitative, Stéphanie.
Et si doute il y a, il vient du fait qu'il est difficile de croire quoi que ce soit venant du gouvernement Maduro, estime le Wall Street Journal aujourd'hui. Le président vénézuélien se plaint régulièrement de présumées tentatives de coup d'État. Une excuse, selon le quotidien américain, pour persécuter les opposants du régime. Et c'est exactement ce que M. Maduro a annoncé vouloir faire après l'attentat présumé de samedi.
Juan Manuel Santos n'échappe pas, lui non plus, aux accusations. Nicolas Maduro estime que son homologue colombien se cache derrière l'attaque du week-end dernier.
Accusation rigoureuse rejeté, comme vous le savez, par la présidence à Bogota. Les éditorialistes colombiens, en tout cas, eux, tirent aujourd'hui le bilan des 2 mandats de Juan Manuel Santos, qui quitte demain le pouvoir pour laisser la place à son successeur issu de la droite dure, Iván Duque. Juan Manuel Santos a tenu sa promesse, en finir avec la guérilla des FARC, constate El Espectador, qui poursuit. Après 8 années au pouvoir, le président termine son second mandat avec une cote de popularité très basse, malgré les succès qu'il qu'il peut légitimement afficher. Outre l'accord historique avec les FARC et le prix Nobel de la paix, on y trouve aussi 2700 kilomètres de nouvelles routes, la modernisation de 75 terminaux portuaires et des travaux dans 91 aéroports, 273 nouveaux ponts construits, le recul significatif du chômage et une nette amélioration de l'image de la Colombie sur la scène internationale. Et le quotidien de conclure, le mécontentement populaire à l'encontre de Juan Manuel Santos est injuste. D'ici quelques années, l'histoire reconnaîtra ce président pour ce qu'il a été, un grand réformateur.
L'éditorialiste du journal El Tiempo tire lui aussi son chapeau.
Ce président aurait été un homme responsable jusqu'au bout, estime le quotidien, un homme qui sait dire au revoir. En effet, poursuit El Tiempo, Juan Manuel Santos a annoncé qu'il allait se retirer de la vie politique. Il part sans se livrer à des règlements de compte personnels. Il n'est pas porté par la soif de vengeance, ni tenté d'instrumentaliser le débat politique pour redorer son blason, en soulignant simplement sa confiance en la stabilité des institutions colombiennes. Juan Manuel Santos jette les bases pour l'avenir du pays, y compris sous la présidence d'Ivan Duque, avec lequel il n'a rien en commun.
Direction Haïti à présent, 4 semaines après les violences qui ont éclaté à la suite de l'annonce de l'augmentation des prix du carburant, le président a choisi un nouveau premier ministre.
Jovenel Moïse a jeté son dévolu sur Jean-Henri Séan, lance le National. L'annonce a été faite dimanche soir par le président via son compte Twitter. La décision émane de 2 jours d'intenses négociations avec les présidents des 2 branches du Parlement, comme le veut la Constitution, précise de son côté le Nouvelliste.
Alors Stéphanie, qui est Jean-Henri Séan ?
Jean-Henri Séan est notaire public et coordonnateur du parti politique Remen Haïti, écrit encore le National. À 2 reprises, en 2010 et en 2015, il a brigué la présidence. Lors du dernier scrutin présidentiel en 2016, Jean-Henri Séan a obtenu 0,75% des suffrages.
Et le premier ministre désigné doit maintenant constituer un gouvernement.
Celui-ci ainsi que sa déclaration de politique générale doivent être approuvés ensuite par le Parlement. Jean-Henri Séan affirme mesurer toute la dimension de la tâche et des défis qui l'attendent, écrit Alter Press. Plusieurs secteurs de la vie nationale continuent d'exiger d'ailleurs la démission du chef de l'État après les émeutes survenues les 6 et le 7 juillet dernier, suite à la tentative d'augmenter des prix des produits pétroliers. Donc, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et son gouvernement ont été contraints de remettre leur démission en dépit du retrait de la mesure, rappelle l'agence haïtienne en ligne.
Merci Stéphanie Schuller pour votre revue de presse des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et un autre duo qui se dessine au Brésil cette fois. Le Parti des Travailleurs a annoncé le nom du colistier de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva pour la présidentielle d'octobre. C'est l'ancien maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, qui a été désigné pour tenir ce rôle peut-être plus important que d'habitude. Romain Lemaresquier.
C'est une décision logique, même si elle n'était pas attendue pour tout de suite. Le Parti des Travailleurs, en désignant Fernando Haddad comme colistier de Lula pour la prochaine présidentielle, se prépare ainsi à toutes les éventualités. Une annonce qui intervient au lendemain de la confirmation du choix de Lula pour ce scrutin, et ce, alors que l'ancien chef d'État purge depuis avril dernier une peine de 12 ans et un mois de prison pour des faits de corruption. Avec cette annonce, la formation de gauche se prémunit contre une éventuelle annulation de cette candidature. 2 instances pourraient empêcher Lula de se représenté et donc pourrait propulser Fernando Haddad comme candidat au poste de président. Tout d'abord, le tribunal supérieur électoral qui dispose d'un mois pour valider ou non cette candidature. Et puis, bien entendu, la justice brésilienne qui doit encore examiner des recours dans cette affaire. Si la condamnation de Lula est confirmée, il deviendrait automatiquement inéligible, comme le stipule une loi brésilienne. En choisissant Fernando Haddad comme colistier, le PT s'assure de disposer d'une personne qui a l'expérience du pouvoir pour mener campagne, puisqu'en plus d'avoir été maire de Sao Paulo entre 2013 et 2017, Fernando Haddad a également été ministre de l'Éducation dans les gouvernements de Lula et de Dilma Rousseff.
Romain Lemaresquier. L'association nicaraguayenne pour les droits de l'homme ferme ses bureaux à Managua. La NPDH, en pointe dans la défense des manifestants anti-Ortega, a pris sa décision après avoir reçu des menaces de groupes paramilitaires. L'organisation continuera d'assister les victimes via Internet. La question des droits de l'homme au centre des bisbilles diplomatiques entre Riyad et Ottawa, le gouvernement saoudien saoudien expulse l'ambassadeur canadien et rappelle son propre ambassadeur à Ottawa. Les relations commerciales avec le Canada sont également suspendues. Une décision qui survient quelques jours après des critiques formulées par le Canada concernant l'arrestation de plusieurs militantes féministes saoudiennes. Les explications de Pascal Guéricola.
Manifestement, l'Arabie Saoudite n'a pas apprécié que le Canada réclame vendredi la libération immédiate de militantes des droits des femmes. Jeudi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s'inquiétait sur Twitter de l'emprisonnement de ces femmes, en particulier celui de Samar Badawi. Cette militante de l'égalité homme-femme est la sœur du blogueur Raif Badawi, lui-même incarcéré en Arabie Saoudite depuis 6 ans, pour avoir critiqué l'islam. Sa femme et ses 3 enfants vivent au Québec. Ce gel dans les relations entre les dirigeants canadiens et saoudiens survient après une période d'embellie entre les deux pays sous le précédent gouvernement à Ottawa. Un contrat d'une 10 milliards d'euros concernant des véhicules blindés légers vendus aux Saoudiens avait été passé. Une entente devenue gênante pour les libéraux au pouvoir quand le grand public a appris que ces véhicules avaient été utilisés contre des civils au Yémen. Le gouvernement a alors pris ses distances avec Riyad. Cela explique peut-être la virulence de la riposte saoudienne aux commentaires canadiens. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Les États-Unis décidés à ne pas laisser d'échappatoire à Téhéran. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, promet de faire respecter les nouvelles sanctions contre l'Iran. Une première vague entrera en vigueur ce mardi à 4h01, temps universel. Les États-Unis, toujours, où Chicago connaît un regain de violence, 6 morts et 60 de blessés par balle. C'est le bilan d'un week-end agité. Plusieurs fusillades ont éclaté entre vendredi et hier. Alors d'où vient cette vague de violence? La police impute pour la plupart des événements à des guerres de gangs. Grégoire Portier.
La police est encore en train d'enquêter pour comprendre dans quelle mesure certains de ces événements sont reliés. En attendant, des passants n'étant pas impliqués semblent avoir aussi été victimes de balles perdues. Autant de tragédies qui se répètent. Il y a 2 semaines, 7 morts et 38 blessés par balle avaient déjà été recensés en un seul week-end. Des centaines de personnes avaient d'ailleurs manifesté contre les armes à feu pas plus tard que vendredi dernier, et c'était loin d'être la première fois. Car Chicago, 3e plus grande ville des États-Unis, est gangrenée par la violence. Depuis le début de l'année, on y recense plus de 300 homicides, et même si c'est 25% de moins que l'an passé à la même époque, cela reste un record national. Si la police dit avoir saisi 5500 armes depuis janvier, le problème est plus vaste. La ville est profondément divisée entre des quartiers dynamiques et florissants et d'autres désœuvrés et manquant d'investissement comme South et West Side où vivent de nombreuses minorités. Grégoire Portier, New York, RFI.
Ce n'est pas sa variante la plus connue, mais le théâtre spontané a lui aussi son festival. La 7e édition du Forum latino-américain de théâtre spontané vient de s'achever à Quito. L'occasion pour Éric Sanson de nous présenter cette forme de théâtre aux origines thérapeutiques.
Sur une scène de la capitale équatorienne, des acteurs simulent les sensations provoquées par le retard. Avec une échelle pour compliquer la représentation, du retard bénin au retard catastrophique. S'agissant d'une mauvaise habitude endémique dans le pays, il n'est pas nécessaire de préciser que le public s'identifie très facilement. Pourtant, les origines du théâtre spontané vont beaucoup plus loin que la simple improvisation, comme le précise Felipe Bonilla, l'un des organisateurs du festival.
Cela a commencé en Autriche il y a plus d'un siècle avec un personnage appelé Jacob Moreno qui a créé ce qu'il a dénommé le théâtre de la spontanéité. Il a ensuite développé la théorie psychologique dite des rôles qui a dérivé sur une méthode de travail connue comme le psychodrame. C'est un groupe thérapeutique dans lequel les gens racontent leurs histoires et les membres du groupe les représentent.
Cette forme de représentation thérapeutique a ensuite rejoint les rues et les salles de théâtre, où elle a été connue comme théâtre spontané ou théâtre playback. En Amérique latine, la technique a été développée au Brésil il y a plus de 25 ans, avant d'essaimer sur le continent, par exemple en Équateur avec entre autres Isolda Vinuesa.
L'apport fondamental du théâtre spontané, c'est le fait de ne pas avoir de script et donc de pouvoir avoir cette création simultanée et collective avec le public. Cette possibilité de dialoguer est un luxe car nous n'avons pas une œuvre toute faite et déjà écrite à transmettre au public.
Isolda Vinuesa a travaillé avec les familles menacées par l'éruption du volcan Cotopaxi. Elle connaît les vertus de séances parfois marquées par le silence, mais durant lesquelles jamais les histoires n'ont manqué. Ce sont parfois ce que les acteurs appellent des scènes redoutées. Ces histoires dramatiques surgissent dans les groupes thérapeutiques dits de rendement élevé, où les participants ont eu le temps de bâtir des liens de confiance. Isolda Vinuesa en a vécu quelques-unes, dont celle d'une femme ayant raconté son viol.
La première réaction a été « Waouh, et maintenant, comment allons-nous représenter un viol ?» Mais ça a fonctionné à merveille. Ça a illustré parfaitement le concept de Moreno, la télé, c'est-à-dire l'empathie qui se crée entre l'acteur et le propriétaire de l'histoire qu'il va représenter. En l'occurrence, la femme violée n'a pas pu choisir un acteur pour représenter son violeur. Elle disait qu'elle ne pouvait imposer à personne de faire quelque chose d'aussi difficile. Et là, une collègue clown a dit « Moi !» alors qu'elle représentait l'antithèse de la manière dont on imaginerait un violeur. Mais elle a joué de manière si légère, si ludique, en utilisant les outils d'un clown, que ça a fait un bien fou à la victime.
Pour l'acteur Christophe Baumann, le théâtre spontané est important dans la vie communautaire.
Le théâtre a toujours été un endroit de rencontre, mais le théâtre spontané est différent. On y va pour faire des rencontres et créer des liens de communauté. C'est ce que l'on appelle l'inconscient collectif. Il y a énormément d'émotions ou de sentiments que l'on expérimente en groupe, mais que l'on ne peut exprimer collectivement, seulement de manière individuelle.
Autre avantage, les sujets les plus sérieux peuvent y être traités avec une bonne touche d'humour. Eric Sanson, Quito, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Il est présenté par Maxime Bossonnet de La Première Caraïbe. Bonjour.
Bonjour Pauline.
Maxime, le chlordécone n'en finit plus de faire parler de lui. Désormais, l'idée d'un dépistage pour révéler la trace de pesticides dans le sang fait son chemin.
Et oui, une pétition intitulée « Pour un dépistage gratuit du taux de pesticides dans nos organismes » a été lancée le 30 juillet par la Fédération Socialiste de Martinique, la FSM. L'objectif est de détecter au plus tôt les traces de pesticides dans le sang, et notamment le chlordécone. Pour rappel, ce produit interdit partout dans le monde a été utilisé dans les années 70 à 90 dans les bananeraies des Antilles. Il serait à l'origine de nombreux cancers. Et Béatrice Bellet, la première secrétaire fédérale de la FSM, estime que c'est à l'État de prendre en charge les dépistages des taux de pesticides dans le sang.
Nous sommes face à une crise sanitaire qui touche au chlordécone mais à d'autres perturbateurs endocriniens. Donc il nous semble en effet plus que légitime aujourd'hui que, un, nous puissions véritablement vérifier le taux de la population chez nous qui est réellement touchée. Ça doit emmener un changement d'attitude dans notre système alimentaire, également dans notre système de développement agricole et de culture agricole. Le deuxième objet de cette pétition, c'est aussi de réclamer une véritable politique de suivi médical de la population impactée, à savoir aujourd'hui les 92% dont on dit que la population martiniquaise est touchée, les 95% aussi de la population guadeloupéenne. Et la troisième demande, c'est évidemment une ouverture également sur la responsabilité des acteurs qui ont favorisé cette intoxication et cet empoisonnement. Et là, une ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. En tout cas, c'est ce pourquoi nous allons nous battre.
Béatrice Bellet, interrogée par Bertrand Caruche pour Martinique la Première. L'association Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes homosexuels victimes de mauvais traitements, lance un appel à l'aide en Guyane. Trois députés interpellent dans une lettre Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils attirent son attention sur la situation de détresse que vivent les bénévoles de l'antenne guyanaise. Dans le département, 68,1% des hommes estiment que l'homosexualité est soit contre nature, soit due à un problème psychologique. Viviane Dofuedos a lu le courrier pour Guyane la Première.
D'emblée, les députés décrivent une situation de détresse due au manque de moyens. Pas assez de ressources pour héberger les jeunes, ni même pour les accompagner tout simplement. L'association Le Refuge étant submergée de demandes auxquelles il lui est aujourd'hui impossible de répondre. La vocation de cette association est de venir en aide aux mineurs homosexuels victimes de mauvais traitements, allant des insultes à l'expulsion du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle. En ce moment, 13 jeunes sont suivis et d'autres attendent à la porte de pouvoir être pris en charge par le seul organisme de ce type en Guyane. Gabriel Serville et deux autres députés ont donc rédigé une lettre à l'attention de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, afin de lui demander un soutien financier durable.
C'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous.
Merci Maxime Bossonnet et bonne journée à vous. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Ovidio De Souza était Thomanette. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, vous nous retrouvez sur internet www.rfi.fr et sur notre page Facebook. L'actualité revient d'ici une trentaine de secondes.